Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast ici en direct presque depuis la Mostra de Venise avec Thibaut Van der Werf, journaliste et critique cinéma. Salut Thibaut.
Salut Guillaume.
Alors on couvre donc les films en compétition à la Mostra de Venise et aujourd'hui on commence assez tôt le matin vers 8h30 avec un petit film méconnu du grand public, Joker, oui c'est Joker, de Todd Phillips, la fameuse incarnation du Joker par Joaquin Phoenix. Tant attendu et avec beaucoup de buzz tout autour, hein. On en parle déjà pour les Oscars. Alors forcément quand il y a autant de bruit autour d'un film, on a un peu d'appréhension, on ne sait pas très bien ce qui va en sortir, donc on vous en parle, mais je propose forcément qu'on s'écoute d'abord un petit extrait de la bande-annonce.
Arthur, I have some bad news for you. This is the last time we'll be meeting.
You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts.
Alors Thibaut, Joker, c'est comment?
Écoute, déjà, c'était attendu, hein, parce que vu la file qu'il y avait ce matin, je pense qu'il y a... Enfin, il y a 4 niveaux de badge pour faire très simple à Venise. D'habitude, à peu près tout le monde arrive à rentrer aux projections. Et ici, il n'y a que les deux niveaux les plus élevés qui ont pu rentrer. Peut-être un tout petit peu du troisième niveau.
Donc tu es en train d'insinuer qu'on est dans les niveaux les plus élevés, c'est ça, c'est...
Écoute,
oui.
On va dire qu'à Venise,
on
a un meilleur badge qu'à Cannes, c'est sûr.
Oui, c'est ça.
Mais donc voilà, il y a eu beaucoup de déçus, je pense. Et vu les files qu'il y a pour la deuxième projection, il y a beaucoup de monde.
Est-ce qu'ils avaient raison de faire la file et se lever très tôt comme nous ce matin?
Oui,
oui.
C'était bien.
Première bonne nouvelle, c'est pas une déception. Voilà, souvent avec des films comme ça, on se dit oui, est-ce que ça va être bien? Est-ce que c'est pas que du marketing? Non, le film est très très bon. Il est bon pour plusieurs raisons. On peut notamment évoquer la prestation de Joaquin Phoenix.
Direct.
Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cette prestation? Parce que c'est ça l'élément central du film, hein. C'est est-ce qu'il est convaincant, Joker? Est-ce qu'on arrive à comprendre son histoire? Mais peut-être que on s'avance un peu trop. On doit peut-être récapituler d'abord l'histoire. De quoi ça parle concrètement de Joker? Est-ce que Batman arrive quelque part ou quoi que ce soit? De quoi on peut s'attendre?
Non, il n'y a pas de Batman. Il y a la famille Wayne qui est présente. Parce que ça se passe évidemment à Gotham City, comme les aventures de Batman. Et on retrouve Arkham, enfin voilà, on retrouve les grands...
L'univers.
L'univers et les lieux connus des fans de Batman. Mais en fait, on est vraiment centré sur l'histoire d'Arthur, que sa mère surnomme Happy. Qui est un clown ayant quand même quelques petits soucis mentaux, si je puis dire.
Gros soucis, oui.
Et qui est donc un peu un
outcast, comme on dit.
C'est exactement ce que j'allais dire.
Un rejeté.
Un marginal, exactement, de la société. Et donc sa vie n'est pas facile. Et concrètement, ce que le film raconte, c'est comment il va devenir le Joker. Donc c'est une espèce d'origin story. Sauf que t'as pas vraiment l'impression d'être devant un film de super-héros, en fait, ici. C'est plus un drame, clairement.
Oui, clairement.
Avec une mise en scène un peu plus grandiloquente, quand même, par certains moments.
Une musique, surtout, qui rappelle parfois les musiques des super-héros.
Exactement. Alors, par contre, là, je m'en veux énormément, parce que j'ai pas mis la page IMDb devant moi, et j'ai pas regardé
le nom du compositeur.
Le générique, le nom, qui avait composé cette musique, mais elle est vraiment très très bien. Mais oui, reprenons un peu les choses dans l'ordre, parce que là on dit déjà beaucoup de choses.
C'est vrai qu'on va dans tous les sens.
C'est que cette histoire, cette origin story, elle est vraiment très très intéressante, je trouve. Alors je sais pas du tout si elle est fidèle par rapport à tout ce qui a déjà pu être fait et dit sur le Joker, parce que c'est pas le personnage que je connais le mieux. J'ai jamais lu les comics de Batman, donc je peux pas dire. Ni les comics, parce que je suppose qu'il y en a. Indépendant, stand-alone du Joker, oui. Donc voilà, je sais pas si c'est très fidèle à ce niveau-là, mais c'est un pur drame, tout simplement, avec un Arthur qui a du mal à s'intégrer dans la société, qui a du mal à s'intégrer dans sa famille. Il a une drôle de relation avec sa mère, il a une drôle de relation avec ses collègues, avec l'environnement qui l'entoure, donc... C'est vraiment quelqu'un qui a du mal avec à peu près tous les aspects qui sont nécessaires dans une vie sociale classique. En fait.
Exactement. Donc on le suit vraiment dans sa descente aux enfers. Donc ceux qui s'attendent à avoir un film où on a une grosse partie de l'histoire où c'est le Joker final, on va dire définitif, celui qu'on connaît peut-être de la bande dessinée, des cartoons ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne voit pas vraiment dans le film. Ce qu'on voit beaucoup, c'est le personnage d'Arthur avant d'être le Joker. Et tout ce qu'il endure professionnellement, d'un point de vue privé aussi. Et donc c'est ça qui est assez intéressant. Le plus intéressant, pour être très franc, c'est surtout le propos du film, qui sans révéler la fin bien sûr, c'est un propos qui, comme souvent dans l'univers des Batman, hein, les plus riches, les plus pauvres, le problème, le trou qu'il y a dans la société. Et forcément, Arthur est une victime de ce trou-là, puisqu'il est suivi par un centre psychiatrique. Ce centre psychiatrique n'a plus d'argent. Donc ils vont arrêter de le suivre. Donc il y a tous ces côtés. Il a la vie, une mauvaise journée. Mais sauf que lui, c'est pas une mauvaise journée, c'est une mauvaise vie tout simplement.
Ouais. Et il est un peu instigateur malgré lui d'une révolution.
Oui.
Ça, à nouveau, c'est quelque chose qui résonne énormément par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, notamment à Hong Kong. Quand on voit certaines scènes, bah voilà, c'est. Ça fait penser à...
Ça fait un peu un écho de ce qu'on peut voir aujourd'hui aux infos ou voilà. Dans certaines tribunes politiques, n'est-ce pas ?
Ben oui, tout à fait.
Tout à fait. Donc, le film est actuel, alors qu'il se passe pourtant dans les années 70.
Ouais.
Et ça aussi, c'est un autre point fort du film, c'est la recréation de New York des années 70 avec le look un peu Martin Scorsese.
Y a des petites références à Scorsese, évidemment.
Oui, plusieurs.
De par la présence de Niro, bien sûr, mais pas seulement. On pourrait notamment penser à la valse des pantins. Mais c'est pas tout, il y a plein de choses.
Plein de clins d'œil.
Il y a... Alors la violence, le film est rated R aux États-Unis.
Rated R.
Et ça se comprend.
Tout à fait.
Il n'y a pas beaucoup de violence, qu'on se le dise. Ça castagne pas dans tous les coins tout le temps. Mais quand il y en a...
C'est tel un drive hein, de Nicolas Winding Refn. Il y a des petits moments comme ça de... d'éclat.
Il fait, ah ouais, ça se point-là.
Ah bah dis donc. Et donc du coup ça... Ça dénote bien avec l'ambiance du film habituel qui est plutôt assez lente. C'est vrai que Todd Phillips, le réalisateur du film, qui pourtant avant avait des films qui ne ressemblent absolument pas à ce film-ci, donc il a fait Very Bad Trip, il a fait Anchorman, donc on est en train de parler d'un autre catalogue. Mais là, il prend son temps, il fait beaucoup de ralentis.
Un peu trop à mon
goût. Il joue beaucoup sur les transitions intenses, et puis à un moment donné, il n'y a rien, puis hop, ça revient. Enfin, voilà, c'est vraiment une mise en scène qui est assez efficace, je trouve. Toi, tu trouves que c'est un peu exagéré sur les ralentis.
Ouais,
il est un peu fan de son sujet, je pense.
Il y a vraiment un peu trop de ralentis à mon goût, mais pour le reste, j'ai vraiment pas trop de reproches à faire à Todd Phillips au niveau de la mise en scène, parce que c'est vraiment du très bon boulot. Il y a, enfin, toute la technique est bien, la photo, le montage, la musique, comme je disais. Et j'ai été chercher l'info entre temps. C'est Hildur Gudnadottir qui l'a signé. Enfin, qu'il a composé, c'était l'ancienne assistante de Johan Johansson, et elle avait déjà fait la musique de Sicario 2, alors que Johan Johansson avait fait celle du premier.
D'accord.
C'est vraiment une des stars montantes au niveau des compositeurs, en l'occurrence compositrice au cinéma, et elle fait un excellent travail, avec une musique assez oppressante hein, par moments, c'est très...
Oui, très oppressant,
ouais.
des petits bruits comme ça qui sortent de nulle part, donc c'est assez spécial. Bon... Si on devait résumer ce film à une note, Thibaut, qu'est-ce qu'on lui donnerait ? Même si je sais que c'est très tôt, là, on a eu le film là il y a à peine 20 minutes.
Ouais, et on doit déjà terminer. On doit déjà terminer. Là, alors qu'il y a tellement de choses à dire.
Oui, mais on en parlera dans Cinécast. Oui, vous inquiétez pas, c'est en octobre, ça va.
Début octobre, lors de la sortie, mais en attendant, je vais lâcher un petit 4. Boum !
Un petit 4. Ouais. Bah, je suis d'accord avec toi sur le 4, on est souvent d'accord, mais là, c'est indiscutable.
Je m'attendais pas à un aussi bon film. J'en attendais pas grand-chose. Un petit peu quand même, parce que Joaquin Phoenix, il s'attache jamais à des projets merdiques. Mmh. Mais là, vraiment...
Mais on dit encore une fois pour terminer, c'est pas un film de super-héros. Donc vous attendez pas à avoir toute la panoplie qui sort des buissons. On est vraiment centré sur le personnage et sur son trajet. Sur ce, on vous souhaite la bonne journée. On se retrouve très bientôt dans Cinécast pour un autre épisode à Venise. À très bientôt.
Bye.